la grande table des idées aujourd'hui, peut-on remonter aux sources de la haine? On en parle avec l'auteur de Chaos, Fraternité et Quand j'étais normal, l'écrivain Mark Weitzman, qui poursuit son exploration de la condition humaine et contemporaine dans Un temps pour haïr, qui paraît chez Grasset, une enquête qui se veut à la fois factuelle, intellectuelle, historique et littéraire. Et le journaliste et directeur du Monde des Livres, Jean Birnbaum, qui 2 ans après Un silence religieux, revient avec La religion des faibles, qui paraît au seuil. Mon premier est aussi le nouveau producteur de Signes des temps, sur France Culture. Mon second, co-présente chaque été les rencontres de Pétrarque avec Hervé Gardette à Montpellier et fait des passages réguliers dans les matins de Guillaume Herner. Bonjour Mark Weitzman.
Bonjour.
Et bonjour Jean Birnbaum.
Bonjour.
La haine, Mark Weitzman, est-ce que c'est un signe des temps? Je ne vais pas aller chercher très loin. J'ai regardé dimanche.
Il nous semble, oui. Enfin, c'est très présent, en tout cas. Pas seulement dans les actes, mais aussi dans les discours et dans les débats. Il y a une tension très perceptible, en tout cas.
Comment vous auriez mis cette émotion, cette idée de haine en débat dans votre propre émission?
Comment
vous l'auriez mise en débat, cette question-là? La question de la haine aujourd'hui.
Je ne sais pas comment j'aurais mise en débat, je suis incapable de vous le dire. Je sais comment je l'ai mise, j'ai essayé de la mettre en question dans le livre, mais comment la mettre en débat dans une émission, là je vais vous laisser faire, je réfléchirai pour une prochaine.
Alors comment vous l'avez mise en débat dans ce livre, ou en tout cas en question dans ce livre qui répond à une démarche quand même assez particulière? On va y revenir. Vous disiez ne pas vouloir quand même faire un livre politique, dépasser aussi les essais politiques qui avait pu être fait et rédigé jusqu'ici, sortir des dogmes sur cette question, ça veut dire quoi? Ça veut dire réintroduire le jeu, aussi une propre subjectivité dans ce questionnement.
Oui, c'est que sur tout ce qui s'est écrit depuis, en particulier depuis les grands attentats de 2015-2016, presque tout était semblait à la fois intéressant et insatisfaisant pour moi, parce que c'était essentiellement des affirmation péremptoire. Il y avait un débat très tranché sur l'islam, bien sûr. Est-ce que c'est la faute de l'islam? Est-ce que c'est la faute de la société? Est-ce que... Chacun ayant ses réponses. Et finalement, c'est des questions qui ne sont pas forcément très intéressantes. Donc j'ai essayé de prendre le problème autrement, de manière plus subjective, et peut-être en essayant d'être plus littéraire, en allant voir des gens, en essayant de trouver la distance surtout nécessaire. Donc en racontant des histoires, en essayant de montrer des situations plutôt que de démontrer des choses.
Qu'est-ce qui vous semblait plus intéressant? Est-ce que c'est cette question de la violence et surtout de la narration de la violence, la manière dont elle se raconte?
Comment se raconte la violence et comment on la raconte? Comment se raconte la haine et comment on la raconte? Comment on la justifie éventuellement? Il y a une phrase dans le livre où j'ai que l'histoire finalement c'est l'histoire des récits qu'on s'invente, que les hommes s'inventent pour justifier ce qu'ils font. C'est ça, quels sont les récits qu'on s'invente pour justifier des actes de violence ou pour les critiquer. Et le livre est vraiment autant une enquête sur les faits, puisque je l'ai écrit, en tout cas j'ai écrit la première mouture pendant que se produisaient les attentats, donc je courais après ce qui se passait, comme tout le monde, en essayant de comprendre ce qui se passait à mesure. Et puis ensuite j'ai tout réécrit en essayant de trouver la bonne distance et la bonne profondeur historique. Et donc l'idée c'était ça, c'était d'interroger non seulement les faits, mais les récits que les gens tiennent sur les faits.
Attentats, djihadisme, radicalité, vous explorez donc ou revenez aux origines de la haine et vous écrivez « Chaque discipline est indispensable pour comprendre ce qui s'est passé, mais toute grille de lecture est lacunaire. Les causes d'un événement paroxystique n'expliquent pas pourquoi il arrive. » Jean Birnbaum, le sous-titre de votre essai à vous, « La religion des faibles », c'est ce que le djihadisme dit de nous. Autrement dit, le croyant est le miroir du croyant. Ça, c'est ce que dit le meurtrier du couple de policiers à Magnanville en juin 2016 dans une vidéo, puisque le meurtre avait été filmé, mis en scène aussi. L'un comme l'autre, il y avait l'envie pour vous de remonter aux origines de la haine comme un miroir tendu à notre société. Et vous adoptez, Jean Birnbaum, cette rhétorique, puisqu'on parlait de la subjectivité à l'instant, le jeu de Mark Weitzman, vous vous retrouvez à adopter cette rhétorique du « nous » et du « eux ». Est-ce qu'il fallait nous opposer à « eux » pour autant?
C'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est-à-dire que je pense que non, il fallait pas, mais on y est contraint. C'est-à-dire qu'il aurait fallu ne pas, on aurait bien aimé ne pas, mais finalement on y est un peu contraint. C'est-à-dire effectivement j'essaie de prendre ce jeu de miroir à partir du moment où les djihadistes frappent, à partir du moment où ils ciblent un vous, à partir du moment où ils passent leur temps à marteler des phrases comme « vous aimez la vie comme nous chérissons la mort », et une phrase qu'on a entendue aussi bien chez Mohamed Merah, que connaît bien Mark Witzman, enfin, il a beaucoup travaillé dessus, que chez Ben Laden ou chez beaucoup d'autres, c'est une obsession chez eux. À partir du moment où ils martèlent ce « vous » en permanence, ils ciblent un « nous ». Et en fait, je pense qu'ils nous harponnent, ils harponnent un « nous », et quelque part, nous, on n'a pas envie de dire « nous », on n'a pas du tout envie de dire « nous », parce qu'on sait très bien, c'était le sens un peu de votre question, en filigrane, on sait très bien que dire « nous », forcément, ça implique un « eux », ça implique une confrontation, ça implique quelque part de s'embringuer dans un... sur un territoire qui est périlleux, qui est, où il y a de l'exclusion dans l'air, de la discrimination, de, peut-être du racisme, etc. Et en même temps, les djihadistes, effectivement, nous obligent à dire nous, ils nous obligent à demander à quoi tient ce nous qu'ils visent, et donc finalement, à quoi tenons-nous. Et tout l'effort du livre, finalement, de mon livre, c'est d'essayer d'aller effectivement à la recherche de ce nous, et d'essayer d'affirmer un nous qui ne serait pas un nous d'exclusion, justement, qui ne serait pas un nous à la Orban, un nous qui se refermerait comme une ligne de barbelés, mais un nous quand même, puisque les djihadistes nous oblige à dire nous, puisque au miroir de cette espérance conquérante et sanglante, eh bien, notre espérance à nous, notre universalisme à nous, nos valeurs à nous, et quand je mets ce nous, c'est un nous contradictoire, en mouvement, de toutes origines, de toute culture, etc., mais un nous quand même, eh bien, puisqu'au miroir de cette idéologie conquérante et de ce nous agressif et sanglant, eh bien, notre nous à nous apparaît comme vulnérable et fragile, bah, il est peut-être temps de le réaffirmer, justement pour se soustraire à ceux qui veulent en faire un nous d'exclusion et de violence.
Le djihadisme sème le doute, sa puissance de séduction révèle la fragilité de notre universalisme, écrivez-vous, face à cette croyance conquérante, nous découvrons notre religion, la religion des faibles, ou plutôt notre certitude que la croyance religieuse n'est rien. Mark Weitzman, sur ce jeu, ou ce jeu, G-E-U, du je et du nous, du e et du nous, est-ce que cette mise à distance ne nous fait pas oublier que cette violence est aussi née en notre sein, de cette société-là?
Je ne sais pas si cette violence est née de notre société. Ce que j'essaie de retracer dans le livre, c'est deux narrations qui se croisent à un moment donné. Il y a une narration qui naît de la crise de la modernité, de la crise des Lumières dès le 19e siècle, et qui débouche sur une tradition qui deviendra plus tard une tradition anti-moderne, qui peut être aussi bien de gauche que de droite, mais qui en tout cas vise à remettre en cause les conséquences des Lumières, les conséquences du progrès, une critique du progrès et des conséquences de la révolution industrielle qu'on voit à l'œuvre à la fois dans les mouvements socialistes comme les Saint-Simoniens, à la fois chez les mouvements réactionnaires à l'époque de la Restauration, et puis qui donne petit à petit une tradition très française. Et puis de l'autre côté, une tradition qui naît au sein du monde musulman, qui est elle aussi anti-moderne. Et à un moment donné, ces traditions se croisent, au moins dans la rhétorique. Il me semble qu'il y a dans ce double mouvement, il y a quelque chose qui sert de base narrative à ce qui va être, ce qui va devenir, ce qui est devenu aujourd'hui la violence. L'autre élément qui ne fait pas partie de notre société, pour le coup, et dont je parle dans le livre, c'est évidemment la guerre civile algérienne. Ça commence à être assez bien connu maintenant, mais la guerre civile algérienne qui a fait quand même près de 200 000 morts en Algérie a eu pour conséquence aussi l'arrivée sur le sol français d'un certain nombre de militants du FIS et du GIA qui ont été essentiels dans la révolution de l'islam de France vers le salafisme au début des années 90. Parallèlement à ça, une tradition d'extrême droite était en train de ressusciter sur les ruines de la guerre froide, et ce double mouvement a créé le climat français assez asphyxiant sur lequel la violence a pu prospérer.
Remonter aux sources de la violence aujourd'hui, vous avez donc identifié, Mark Weitzman, deux courants populistes à la fois concurrents et imbriqués. Vous l'évoquiez, les islamistes et les extrémistes rouge-brun, un populisme post-fasciste qui se serait l'un et l'autre alimenté dans leur haine de la modernité et leur obsession pour les identités. Tous deux ressuscités sur les ruines de la guerre froide, écrivez-vous, notre siècle est l'immense décharge à ciel ouvert de celui qui précède. Alors, on revient au début de la guerre d'Algérie avec cette poussée électorale du parti islamiste algérien qui amène le gouvernement à décréter l'état d'urgence le 9 février 1992.
Après 6 jours de flambée de violence islamiste, le calme est revenu à Alger et dans tout le pays. L'instauration de l'état d'urgence pour 12 mois ne favorise guère les débordements à venir. L'État s'est doté en effet de tous les moyens pour faire respecter l'ordre public. En plus de la mise en place des nouvelles lois qui interdisent les prêches politiques dans les mosquées, le gouvernement peut maintenant suspendre ou interdire les institutions municipales et régionales qui entraveraient ses activités. Le Front islamique du Salut, déjà privé des lieux de culte et de ses journaux saisis ou interdits, pourrait donc aussi se voir chassé de ses mairies conquises pourtant avec la légitimité des urnes. La dernière étape de la stratégie d'étouffement du FIS est également engagée. Une procédure de dissolution du mouvement est en marche sur plainte du tribunal administratif pour non-respect de la loi relative aux partis politiques. Ferme et déterminé, le nouveau pouvoir veut éradiquer le FIS, qui récolte encore les faveurs de tous les laissés pour compte. Il lui faudra assurément s'attaquer rapidement aux véritables racines du mal, les problèmes économiques et sociaux endémiques en Algérie.
S'en suivra une lutte armée sanglante. Sur ce dernier commentaire du journaliste, le pouvoir va devoir s'attaquer aux racines économiques et sociales du mal.
Oui, on est, quand on lit les discours du FIS algérien à l'époque, et quand on lit les discours de l'extrême droite française aujourd'hui, ou de l'extrême droite, disons, identitaire aujourd'hui, ou certains discours d'extrême gauche, on est frappé par le parallélisme du vocabulaire. Hein. Le FIS est un mouvement populiste qui vise l'authenticité algérienne. Ils n'ont que ce mot à la bouche. Ils luttent contre la globalisation, contre les élites cosmopolites et globales. Ils luttent contre les juifs, les femmes et les homosexuels, qui sont les trois symboles de la démocratie. Et le grand thème, c'est l'identité. Cette identité algérienne que le FIS veut trouver, au nom de laquelle ils vont massacrer des gens, on retrouve cette obsession identitaire aujourd'hui un peu partout en France, dans certains mouvements d'extrême gauche et évidemment dans la droite identitaire.
Jean Birnbaum, sur ce miroir tendu à notre société, est-ce qu'il y a aussi un retour à faire par l'histoire? Est-ce que vous pensez, comme Marc Winspan, que notre siècle est l'immense décharge à ciel ouvert de celui qui précède?
Vous savez, moi, je suis d'un milieu où la guerre d'Algérie était tout à fait centrale. J'ai été élevé dans la mémoire de la guerre d'Algérie, surtout la mémoire de la lutte contre la guerre d'Algérie. Je pense effectivement que ça a été un laboratoire. Je pense aussi que finalement, c'est un des sujets de mon livre, ce qui s'est passé entre le moment de la guerre d'indépendance et le moment de la guerre civile avec les islamistes est exactement ce que je décris, c'est-à-dire la cassure et le fait qu'on a été dénisé par rapport à certains européocentrismes. À l'époque de la guerre d'Algérie et de la lutte contre la guerre d'Algérie, notre progressisme commun, la culture politique de la gauche, considérait comme une évidence que si les damnés de la Terre devaient se révolter contre l'Occident, ce serait au nom de valeurs occidentales, que forcément la guerre à l'Occident serait une guerre intestine. Et donc, ce serait au nom de la liberté, au nom de la nation, au nom du socialisme, etc., etc. Ouais. Avec ce qui se passe avec les islamistes et ensuite avec les djihadistes, c'est que cet européocentrisme dégoulinant et obsessionnel, et qui a eu ses heures de gloire et sa beauté, mais qui aujourd'hui n'a plus vraiment lieu d'être, est cassé. C'est-à-dire que le djihadisme est un mouvement qui montre que aujourd'hui, l'Occident peut être défié par des gens qui ne se réclament absolument pas des valeurs de l'Europe ou de l'Occident. Ça rejoint d'ailleurs la question que vous avez posée tout à l'heure. Vous avez dit, est-ce que finalement la haine ne vient pas de notre société? Moi, j'ai grandi dans un milieu où effectivement tout ce qui se passait, quoi qu'il arrive en permanence, les événements, c'était toujours des choses qui étaient soit des conséquences de ce qu'avait fait l'Occident, soit des choses qui servaient en dernière instance les intérêts de l'Occident. C'était souvent vrai, c'était pas toujours vrai. Et aujourd'hui, on en est un peu revenu, on devrait en être revenu parce que l'Occident est de moins en moins hégémonique. L'Europe elle-même, dans ses valeurs, ça n'a plus les moyens de l'hégémonie. Et vous savez, Alain Badiou, qui est quelqu'un que j'interpelle un peu dans le livre, quand il parle des djihadistes, il dit ces gens sont des fascistes, ce sont des péténistes, ce sont des gens qui ont un désir d'Occident. Ils sont mus par un désir d'Occident. Badiou dit la religion, pour eux, ça n'est qu'un vêtement, c'est que dalle, c'est un pur prétexte. Il ne prend pas au sérieux leur discours. Il ne les prend pas au sérieux du tout. Et en dernière instance, pour lui, tout ça est une affaire interne à l'Occident. Ça rejoint votre question. Est-ce que toute cette haine ne vient pas de notre société? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a jamais d'autre. Dans toute une culture tiers-mondiste, il n'y a pas de tiers possible. L'Occident est le seul acteur sur la scène de l'histoire. C'est le même la seule oppression possible. Les djihadistes déboulent là-dedans, montrent qu'il y a d'autres oppressions possibles, renouent avec un calendrier et un agenda qui n'est plus celui de la colonisation. Et ils montrent par leur violence et par leur force, par leur puissance de séduction, par le simple fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre espérance à l'échelle de la planète, il n'y a pas d'autre espérance au nom de laquelle des milliers de jeunes Européens sont prêts à aller mourir. Ils montrent qu'aujourd'hui, eh bien, l'Europe doit être remise à sa place, qu'elle doit elle-même se remettre à sa place, et donc même qu'elle peut retrouver une forme de fierté. Sur cette question de est-ce que ça vient pas toujours de notre société, il y a une boutade que j'aime beaucoup, qui à mon sens résume beaucoup de choses, c'est celle du philosophe Cornelius Castoriadis, d'origine grecque, vous le savez, qui était cofondateur de Socialisme ou Barbarie, le groupe et la revue antitotalitaire. Et Castoriadis disait, à chaque fois qu'on se demande si la question ou le discours qu'on est en train de poser ou le discours qu'on est en train de tenir au moment où on parle n'est pas un discours trop européocentré, il faut savoir que cette question même est une question européocentrée. Parce que, disait Castoriadis, personne n'irait demander à l'ayatollah Khomeini, par exemple, si il est trop iranocentré ou trop islamocentré. Et c'est un des grands services, une des grandes injonctions que le djihadisme nous lance, hein, c'est-à-dire, sachez que vous n'êtes plus au centre du monde, sachez que vous n'êtes plus hégémonique, vous n'avez plus les moyens de cette hégémonie, nous-mêmes, nous vous défions à partir de valeurs qui ne sont plus les vôtres, et donc vous feriez bien de savoir qu'il y a de l'autre.
Marc Weitzman, d'où l'importance des mots, d'où l'importance de faire aussi attention à ces discours. Tout à l'heure, Jean Birnbaum disait que vous connaissez bien Mohamed Merah, donc comprendre que vous avez quand même vous avez dit ça comme ça, mais vous êtes repris. Donc j'explique pour l'auditeur, c'est que vous avez aussi suivi les procès qui ont suivi les attentats, ceux qui ont pu avoir lieu. Vous êtes allé à la rencontre des familles aussi de djihadistes. Vous avez travaillé sur les procès-verbaux, donc vous êtes allé essayer de comprendre ce vocabulaire et les explications qui en étaient données. Vous dites que la violence agit aussi derrière les clichés, que trop souvent le débat s'est réduit depuis quelques années à s'accuser d'islamophobie ou d'antisémitisme. Oui. C'est aussi une réduction de la parole qui empêche de nous penser, pour le coup.
Parce que, oui, à partir du moment où on pense en termes de clichés, en termes d'expressions, on utilise des mots qu'il faudrait déconstruire systématiquement parce que on ne sait pas de quoi on parle. Les débats tournent autour de sionisme, antisionisme, islamophobie. C'est des termes qui sont jamais définis, qui font le tour des micros et des antennes sans qu'on y réfléchisse sérieusement et sans qu'on essaye même de comprendre d'où ils viennent. Je voulais rebondir sur ce que vient de dire Jean Birnbaum sur un point. L'élément pervers qui vient s'ajouter à ce que Jean Birnbaum vient de dire, c'est que parmi les premiers à avoir compris parce qu'ils étaient profondément anti-occidentaux, ce dérèglement de la focale mondiale vers d'autres centres géographiques, c'est les gens de la nouvelle droite. Faut se souvenir qu'Alain Benoît, par exemple, dans Élément, soutenait la révolution iranienne en 79. Il y avait contre l'Occident, contre ce qu'il appelait l'universalisme occidental, qu'il voyait comme une forme d'impérialisme américain essentiellement. Donc il y a cette idée que la lutte contre la globalisation, contre l'universalisme, doit passer avant tout le reste. Et donc, il y a des alliances contre nature qui se forgent. En apparence, contre nature. On a vraiment une sorte de remise en jeu des discours maurassiens. C'est le pays réel, la foi réelle, la véritable identité contre le mensonge du globalisme, de l'universel. Et c'est là-dessus que se base la violence verbale, mais aussi la violence en acte dans le cas des djihadistes. Sur le langage, ce qui est dramatique, c'est j'essaye de le montrer dans le livre en faisant parler les gens, parce que c'est toujours intéressant d'entendre et de lire la manière dont les gens s'expriment. Il y a plusieurs voix qui s'expriment dans le livre. Il y a les discours structurés des militants politiques, et puis il y a les discours entièrement déstructurés des gens de banlieue qui sont les petites mains de ces militants, et on se rend compte d'une sorte c'est l'autre élément de la violence, c'est la déstructuration totale du langage qui fait qu'on ne comprend pas littéralement. Quand François Molins, le procureur, disait ce sont des gens qui viennent de nulle part, il disait quelque chose de très profond. C'est des gens, quand on les écoute parler, quand on écoute Asna Idboulassem parler, par exemple, à Saint-Denis, la fille qui est morte dans l'intervention policière de Saint-Denis, la cousine de Abaoud, on n'arrive pas à comprendre d'où vient cette errance. Là, il y a un décalage dans les mots même qui font que toute identité semble perdue, semble exploser.
Voilà, votre réflexion donc sur la violence se double d'une réflexion aussi sur les mots, sur le rôle des images, de l'idéologie, des croyances, un questionnement aussi sur la vérité. Comment fait-on pour remonter aux racines de la violence, pardon Jean-Bierne Baume, où commence la haine et où s'arrête-t-elle? Avec nous deux voix aujourd'hui, celle de Jean-Bierne Baume, auteur de La religion des faibles qui paraît au Seuil, et celle de Marc Weitzman pour Le temps, un temps pour haïr qui paraît chez Grasset. Il est 13h15 sur France Culture.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Alors comment remonter aux racines de la violence et de la haine, les causes de la radicalisation? Elles ont longtemps opposé Gilles Kepel et Olivier Roy. C'est ce dernier que nous avons choisi de vous faire entendre pour ouvrir cette deuxième partie de la discussion.
Pour ceux qui se radicalisent dans l'islam, la dimension religieuse existe, elle est importante. Mais elle n'explique pas cette fascination pour la violence qu'on retrouve. Alors là, je donne comme exemple le phénomène Columbine, c'est-à-dire les jeunes qui descendent dans leur collège avec une kalachnikov et qui tuent tout le monde. On a la même structure, je dirais, que chez ceux du Bataclan. On utilise Internet abondamment pour se mettre en scène. On se met des photos de soi sur Facebook avec des armes, etc. On fait un massacre de masse et de gens qui nous sont proches, finalement. Et puis, on se fait sauter ou on se laisse tuer par la police. Daesh et Al-Qaïda puisent dans un vivier de jeunes radicalisés qui auraient pu se radicaliser autrement, mais qui choisissent l'islam pour, dans le fond, les intégrer dans leur stratégie de déstabilisation de l'Europe et de l'Occident.
Voilà, l'Orient aussi contre le monde moderne, une stratégie de déstabilisation de l'Europe et de l'Occident. Jean-Bierne Baume, vous êtes plutôt d'accord, vous, avec cette thèse?
Bah non, vous le savez bien, non pas du tout, puisque j'ai écrit un livre entier qui s'appelle Un silence religieux, qui est justement pour montrer qu'on a un mal fou à prendre au sérieux la dimension religieuse de tout ça, et que justement, quand Olivier Roy dit oui, ils auraient pu se radicaliser sur à partir d'une autre chose, je sais pas, le végétarisme ou d'autres choses, en fait, la question qui se pose, c'est pourquoi ils se radicalisent à partir de l'islam, et pourquoi aujourd'hui la seule espérance, je répète, c'est très important, parce que c'est pas au nom des idées végétarienne ou du socialisme ou autre chose d'ailleurs, qu'aujourd'hui des milliers de jeunes européens sont prêts à aller mourir à l'autre bout du monde. Moi, c'est l'angoisse de départ. Je suis héritier d'une culture internationaliste pour laquelle il n'y a rien de plus beau que d'aller mourir, en tout cas d'aller se battre à l'autre bout du monde pour une cause qu'on croit juste. C'est par exemple la guerre d'Espagne, c'est d'autres combats anticolonialistes, etc. Aujourd'hui, il n'y a que cette cause-là. Et en fait, dire ce que dit Olivier Roy là, et dire tous ceux qui prennent la chose comme un peu de façon un peu légère, c'est poignarder dans le dos tous les musulmans, simples croyants ou théologiens musulmans qui eux savent très bien qu'il se passe quelque chose d'un peu spécifique, que par exemple, comme le disait Christian Jambet, un autre islamologue très très compétent et très exigeant, Christian Jambet disait bien avant le 11 septembre, il disait au début des années 2000, il disait en fait aujourd'hui ce qui se passe de très simple dans le face-à-face avec la modernité, c'est que l'islam est la seule religion qui se propose de façon militante comme avenir de ce monde face à la modernité occidentale, universaliste, etc. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse, et je peux pas être d'accord avec cette manière en fait de diluer la singularité de la chose, parce que beaucoup de gens comme Mohamed Harkoun, qui malheureusement n'est plus là, comme d'autres islamologues, etc., savent très bien qu'il se passe quelque chose d'un peu spécifique aujourd'hui, que toutes les religions, évidemment, ont leur crispation doctrinaire, leur crispation parfois sanglante, évidemment, mais qu'aujourd'hui, nous sommes tous embarqués dans une guerre civile qui traverse l'islam et qui mine l'islam de l'intérieur. Les journaux qui ont le plus de mal à traiter de ce genre de sujet sont obligés maintenant de faire des infographies sur les sunnites, les chiites, l'Arabie Saoudite, l'Iran, etc., etc., parce que nous sommes tous embarqués là-dedans, et faire comme s'il se passait rien de particulier, comme si en fait tous ces jeunes et tous ces gens qui tuent au nom de l'islam ou qui parfois sont tués au nom de l'islam, comme si tout ça aurait pu avoir lieu dans n'importe quel territoire ou au nom de n'importe quelle idéologie, c'est un problème. Moi, je pense que nous avons largement perdu la question du symbolique. Vous savez que Jacques Derrida, qui n'était pas spécialement un islamophobe ni quelqu'un de droite, Jacques Derrida disait, là aussi il y a longtemps, au milieu des années 90, au moment de la guerre civile algérienne justement, au moment de la guerre civile algérienne dont nous avons évoqué quelques temps tout à l'heure, eh bien Jacques Derrida disait, en fait, bien sûr, tout ça est très compliqué, mais il ne faut pas écarter la question du « au nom de ». Quand quelque chose est fait au nom d'autre chose, ça n'est pas rien. Quand des gens tuent au nom de l'islam, il ne faut pas évacuer ça d'un revers de la main. Aujourd'hui, cette question du au nom d'eux est la question du symbolique, et nous avons un mal fou à prendre au sérieux la question du symbolique.
Marc Weitzman, vous pouvez rebondir directement rebondissement sur ce que vient de dire Jean Bienbonne, puis je ne vais pas vous demander si vous êtes d'accord ou pas avec la thèse d'Olivier Roy, parce que ça fait, là vous allez me dire, ah bon, ben non, j'ai écrit dans mon livre clairement que le terme du problème, c'est autre chose, ou pourquoi Olivier Roy a tort. Alors dites-nous en quoi Olivier Roy a tort.
C'est dingue, mais que Olivier Roy puisse continuer, enfin je ne sais pas, puisse continuer à commenter de manière avec le même degré de certitude aujourd'hui, comme il l'a fait après les attentats de Toulouse et Montauban dans le New York Times, en écrivant que Mohamed Merah était trois jours après les attentats, que Mohamed Merah n'était bien sûr partie prenante d'aucun groupe islamiste qui s'était radicalisé seul en prison. Il s'est jamais excusé pour avoir écrit ça. Enfin, il y a un moment donné où quand même il faut essayer d'être un minimum rigoureux et laisser l'idéologie de côté. Il me semble que je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Jean Bienbeau, mais il est évident qu'il y a une guerre civile interne à l'islam aujourd'hui. Cette guerre, elle a une histoire longue, elle a une histoire courte, elle a une histoire longue et même très longue, puisque l'une des raisons probablement pour laquelle la France est comme ça, la focale de la violence aujourd'hui, c'est pas seulement géographique, c'est aussi que la France est le pays par lequel la rencontre avec la modernité s'est faite. En islam, l'expédition d'Égypte de Napoléon, et puis c'est surtout après, 30 ans plus tard, la conquête de l'Algérie. Il y a une guerre à la modernité qui est faite, et effectivement, l'islam est aujourd'hui la pointe avancée de cette guerre à la modernité, en tout cas l'islam. Au sein de l'islam, une tendance réactionnaire, anti-moderne, est aujourd'hui l'avant-garde de l'antimodernisme global. Et c'est quand je dis global, on trouve aussi cet antimodernisme en Occident, dans les mouvements identitaires, aux États-Unis et ailleurs.
Comme motif préalable, écrivez-vous, Marc Weitzman, comme justification après coup, comme argument de propagande, un élément antisémite paraît ainsi indispensable à chacun des attentats les plus marquants de la grande vague de terreur, à ceux qui ont constitué en tout cas sa colonne vertébrale narrative. Vous qualifiez la violence anti-juive de palier initiatique au-delà duquel tout devient possible. L'antisémitisme, ici, c'est une cause ou un symptôme pour vous ?
C'est pas exactement une cause, c'est effectivement un symptôme, mais c'est plus que ça, c'est une sorte d'éléments déclencheurs, d'éléments légitimants. On se rend compte que la plupart des djihadistes qui ont agi sur le sol français, à commencer par les frères Kouachi, pour se justifier, invoquent les juifs, le sionisme, Israël. Moi, j'ai commencé le livre à partir d'une série de reportages que j'avais fait sur la montée de l'antisémitisme. Et la caractéristique de cet antisémitisme, c'est qu'il était apolitique. Il était pulsionnel. C'était des incidents, des faits divers, des choses comme ça. Et quand les attentats sont arrivés, des grands attentats sont arrivés, la question s'est posée de savoir quel était le lien entre des éléments de pulsionnels et puis des attentats planifiés qui visent tout le monde, alors que les agressions pulsionnelles ne visaient que les juifs. Je rappelle qu'une semaine avant les attentats de Charlie Hebdo et d'Hypercacher, fin décembre, le nombre d'incidents antisémites en France avait atteint le chiffre de 800 quand même, c'est-à-dire plus de 2 par jour. Il y avait donc il y a une sorte de rapport, mais très difficile à expliquer, et les responsables de la communauté juive, d'ailleurs, je le dis au passage, se trompent quand ils essayent de mettre en cause mécanique et de faire de chaque auteur d'un incident antisémite un djihadiste qui s'ignore ou qui s'ignore pas, parce que c'est pas le cas. Dans la plupart des cas, les auteurs d'incidents antisémites ne sont pas politisés. Et c'est bien le mystère. Il y a un lien, mais ce lien est difficile à trouver. C'est un lien narratif, en fait. C'est ce que j'explique dans le livre. Je peux pas refaire toute la démonstration ici. Mais il y a une sorte d'énergie qui passe par la violence anti-juive à un moment donné, et qui est légitimée ensuite après coup par le discours politique.
Une vie a nié l'existence de l'Holocauste. On a appris ce matin la mort du négationniste Robert Forisson, Jean Bienbaume. Mais ces thèses immondes vivent encore, a réagi la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Sous quelle forme elles vivent encore ces thèses aujourd'hui, ces idées défendues par Robert Forisson?
Bon, écoutez, elles ont la vie devant elles. En fait, on voit bien qu'aujourd'hui, le négationnisme, il est instantané sur tout un tas de faits, un peu partout. Il suffit d'être sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc., pour voir que sur tout un tas de sujets, les événements n'ont même pas eu lieu. Sur la Syrie ou sur d'autres événements comme ceux-là, les meurtres, les massacres sont à peine terminés que déjà tout un tas de procédés paranoïdes, obscènes, vénéneux, perfides, incroyablement violents, s'abattent sur le corps des victimes. Vous savez, Nadine Fresco, qui est une des premières, c'est la première qui a fait un article sur Forisson à l'époque. Cet article s'appelait Les redresseurs de mort. Les redresseurs de mort, voilà, c'était sur Forisson, mais des redresseurs de mort, il y en a un peu partout en ce moment. Pensez, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être arménien, par exemple. Être arménien, vous savez que, évidemment, sur Forisson, celui qui avait fait ce travail incroyable, c'est Pierre Vidal-Naquet. Pierre Vidal-Naquet, dans ce livre, s'appelle Les assassins de la mémoire, et un Eichmann de papier, un des articles du livre. Vidal-Naquet avait fait on revient à la guerre d'Algérie, à ces héros de la lutte contre la torture en Algérie. Vidal-Naquet avait fait ce petit livre qu'il faut absolument avoir lu, mais qui est fou, qui est délirant à sa manière, puisqu'il plonge dans l'esprit totalement paranoïaque et manipulateur de Forisson. Il commence en disant, je me souviens plus, c'est les premières lignes, il dit, bon, alors, dialoguer avec ces gens-là, c'est comme si on disait, oui, il fallait démonter les idées de ceux qui pensent que la Lune, je sais plus s'il dit la Lune ou une autre planète, est faite en fromage de Roquefort, ça je m'en souviens. Et donc il dit, voilà, mais il faut quand même répondre. Et donc il se plonge dans les arguments, le soupçon, l'incroyable violence, l'acharnement argumentatif et pervers de cette prose-là, et à un moment donné, il parle de la Turquie, par exemple, et il dit « Mettons-nous à la place des minorités arméniennes un peu partout dans le monde. Imaginons Forisson ministre, Forisson général, Forisson ambassadeur. » Ben oui, Forisson est un peu partout ministre dans le monde, il est un peu partout ambassadeur, et Forisson donc a la vie devant lui.
Le mot de la fin, Marc Weisman, est-ce que ces idées aussi, parce qu'il a quand même été interdit de citer ou droit de citer depuis les années 80, est-ce que ces idées ont muté, ou est-ce que c'est toujours le même
Elles ont muté plusieurs fois. Je rappelle dans le livre que au moment de l'attaque, juste après Charlie Hebdo, pendant que les frères Kouachi étaient encore en fuite, juste alors que la vidéo du meurtre du policier Merabet venait d'être postée sur Facebook, les premières théories conspirationnistes ont commencé littéralement live pendant que les frères Kouachi étaient encore en train de fuir. Et c'est dès ce moment-là, des gens se sont interrogés sur Facebook pour savoir si quelle était la couleur du pare-brise de la voiture. Enfin bon, des détails absurdes qui rentrent complètement dans une logique négationniste. Donc le Forisson, Racinié, tous ces gens qui ont commencé au départ comme critiques littéraires ont élaboré une théorie, encore une fois une narration qui consiste à nier l'histoire, mais c'est encore une fois la narration qui est centrale dans ces histoires, la manière de remettre en cause au nom de la raison des réalités factuelles. C'est né en France. Et ça a muté plusieurs fois. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, avec l'industrie des enfin, si on peut parler vraiment d'industrie, l'espèce de contre-savoir mondialisé qui s'est mis en place, notamment à travers les réseaux sociaux, le négationnisme a de beaux jours devant lui, oui.
En remontant aux sources du mal, vous avez l'impression d'avoir retrouvé vraiment l'origine de la haine, d'avoir touché le point. Vous en êtes très loin.
Ça, je ne sais pas.
Mais vous savez, moi, on a parlé de haine depuis le début. Moi, ce qui me frappe et ce qui m'a donné envie d'écrire le livre, c'est pas tellement la haine, parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup, beaucoup de rencontres après l'apparition de mon précédent livre sur les questions religieuses, et j'en ai fait des dizaines dans des milieux extrêmement différents, des milieux chrétiens, des milieux d'ouvriers anarchistes, enfin, des gens très différents. Et partout, alors que c'est des sujets quand même, le djihadisme, ça, on peut se dire, oh là, ça va déraper, il va y avoir des trucs islamophobes, racistes et tout. Partout, j'ai vu un niveau de responsabilité et d'exigence dans la parole des gens que j'ai rencontrés, qui était très fort. Ce qui m'a frappé, c'était moins la haine que la vulnérabilité. C'est pour ça que mon livre s'appelle La religion des faibles, c'est que je pense que les gens en fait sont coincés entre la volonté de nommer ce qui est en train de se passer et en même temps la peur, toujours la peur de faire le jeu de l'extrême droite, etc. Et donc c'est cette question plutôt de la vulnérabilité et de nos idées, de notre espérance en tant qu'elle s'enracine dans la vieille Europe.
La religion des faibles. Merci beaucoup Jean Birnbaum, votre ouvrage vient de paraître au Seuil, Un temps pour haïr. Merci Marc Weisman, votre essai vient de paraître quant à lui chez Grasset. Un grand merci aussi à toute l'équipe de La Grande Table, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez pour cette Grande Table des idées, à Oriane Delacroix et Iso Tsikar pour La Grande Table culture, à la réalisation aujourd'hui Alexandra Candy-Longuet avec Emmanuel Morse-Duncan. Très bel après-midi à tous sur France Culture.